Parole d'auteur. Parole d'auteur, Philippe Gilbert.
Écrire sur ce qui ne va pas dans notre société, sans railler, simplement sans déplorer, sans maudire, mais en essayant de comprendre. D'écrire les mots de notre monde en se confrontant au postulat selon lequel une chose qui convient à notre nature est nécessairement bonne. Voir la réalité et mesurer sa satisfaction intérieure est en vérité ce que nous pouvons espérer de plus grand. Voilà un défi magistralement relevé qui déclenche une véritable vague spinozienne sur la réflexion du lecteur. La démarche est redoutablement efficace, elle est poétique, elle est furtive, la précision et la brièveté sont au rendez-vous, le recours aux mots justes la rend percutante. Délicate orfèvrerie sur le fond et ciselée sur la forme, tel est le recueil de poèmes intitulé « Silhouette furtive » que nous offre Gérard Lacoste, deuxième prix au concours international de poésie Arthur Rimbaud 2023 et paru chez Acala, à lire et à relire. Bonjour Gérard Lacoste.
Bonjour Philippe Gilbert.
Merci d'être des nôtres. Nous sommes très heureux de vous revoir puisque vous étiez déjà venu dans notre émission pour nous parler des chemins de Compostelle. Je salue nos fidèles auditeurs et je précise qu'ils pourront réagir à cette émission sur notre site et la retrouver en podcast sur toutes les grandes plateformes numériques. Gérard Lacoste, poésie. Donc première question, quel est votre poète préféré ?
Ah, mon poète préféré, je ne serai pas très original, c'est Charles Baudelaire qui est universel et qui finalement m'enchante toujours après bien des années et que, après que tout le monde ait découvert Baudelaire, je continue de le redécouvrir, c'est mon poète préféré. Oui.
Alors au-delà de la préférence, est-ce que c'est un modèle pour le poète que vous êtes en matière d'écriture ?
Pas du tout.
Et pour quelle raison ?
Non, je n'ai absolument pas de modèle. Je ne me reconnais pas de modèle, si ce n'est dans la métrique, où là, bien sûr, j'observe les règles de la poésie. Pas toujours, mais en général, oui. Mais non, je n'ai pas de modèle. La poésie me vient naturellement, je dirais. Je la pratique à partir d'un objet que j'ai rencontré, ou d'une personne que j'ai rencontrée, ou d'un événement qui me surprend. Et c'est comme ça que j'écris les poèmes, en fait.
Est-ce que je peux vous poser une question plus précise, peut-être délicate, mais si vous n'avez pas de réponse, on verra un peu après. Votre définition de la poésie, tout simplement le premier mot auquel vous pensez quand on vous évoque la poésie.
En fait, le premier mot, ce serait plutôt... La première phrase, c'est l'art et la manière, en fait, de dire les choses. Et je crois que la littérature, c'est l'art et la manière de dire les choses. C'est d'ailleurs ce que répondait Salman Rushdie très récemment à un intervieweur qui lui disait, posait une question très banale, qu'est-ce que c'est pour vous la littérature ? Et il a répondu d'une manière aussi banale, c'est l'art et la manière de dire les choses. Mais je crois que c'est très vrai, et peut-être encore davantage dans la poésie, puisque dans la poésie, à l'art et la manière de dire les choses, on ajoute une musique, en fait. Il y a une musicalité du vers, notamment dans les alexandrins, que je pratique a priori, je dirais. Et donc, oui, c'est ça, la poésie. C'est l'art et la manière de dire les choses, je crois.
D'accord. Avant de parler plus précisément de votre recueil, je voulais rappeler aux auditeurs que vous êtes... Vous avez eu une carrière dans le domaine commercial, dans la communication et dans le marketing, et que, d'après ce que j'ai compris, vous avez toujours eu un goût pour l'expression écrite et même l'expression orale d'ailleurs, que vous avez été journaliste pigiste pour différentes revues professionnelles, et que tout cela vous a conduit donc vers une carrière d'auteur. C'est bien ça ?
C'est bien ça, mais en fait, le désir d'une carrière, enfin carrière est un grand mot, le désir de devenir auteur m'a conduit à devenir un petit peu journaliste, pigiste pour diverses revues, et le fait de m'exprimer oralement et le goût de l'expression orale et de l'expression écrite m'a beaucoup servi dans ma carrière professionnelle, absolument.
Alors, vous avez publié des romans, un récit de voyage, des nouvelles. Et donc, comme je le disais, vous avez produit des articles pour des revues professionnelles. Le dernier roman que vous avez publié s'appelle « Là-bas ». Il est publié chez Akala. Vous pourriez nous expliquer très rapidement la spécificité de ce roman, puisque on peut dire que c'est un genre qui n'est pas très répandu en termes de sujet ou de milieu d'écrit.
Alors, ce roman, en fait, se passe dans un milieu industriel, mais ce n'est pas le plus important. C'est presque anecdotique, je dirais. Le thème central du roman, c'est l'attente. C'est le fait que dans sa vie, en général, dans la vie professionnelle ou dans la vie personnelle, on passe énormément de temps à attendre. Et donc, dans ce roman, je mets en scène un personnage qui attend lui aussi, comme les personnages de divers romans qui l'ont précédé ont attendu également. Et je voulais absolument montrer ce temps-là, ce temps mort, dans lequel on n'est pas acteur, puisqu'on est obligé d'attendre. Mais c'est vrai que dans la vie, on attend énormément. On attend d'avoir un emploi pour le chômeur. Une femme attend 9 mois d'avoir son enfant. Et on passe énormément de temps à attendre dans la vie. On attend les résultats d'un examen médical qui tarde à venir. Et on ne peut rien faire d'autre que de l'attendre avant d'agir. Si on pouvait comptabiliser le temps d'attente de toute une vie, il serait surprenant, je pense. Et c'est donc le thème de ce roman dans lequel je mets en scène des personnages qui attendent et qui n'ont pas d'autre choix que d'attendre.
La dernière fois, vous étiez venu nous voir pour un récit de voyage qui s'appelait Camino Portrait, qui évoquait les rencontres sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, donc un genre tout à fait différent. Et pour donner donc un aperçu de vos écrits aux auditeurs, donc roman, récit de voyage, et donc aujourd'hui nous allons voir de plus près ce recueil Silhouette furtive que vous venez de publier. Premier point, ce recueil, il a déjà reçu une consécration au concours Arthur Rimbaud. Est-ce que vous pourriez expliquer aux auditeurs en quoi consiste ce concours ?
Alors, le concours Arthur Rimbaud, qui est un concours international, c'est extrêmement simple. Il faut envoyer un ou plusieurs poèmes, et donc un jury est chargé de couronner les meilleurs poèmes. Alors, il y a les poèmes jeunesse, les poèmes classiques. Moi, c'était donc poèmes classiques et néoclassiques dans cette catégorie. Et il y a à peu près 1000 poèmes au total, et deux qui ont été sélectionnés, le premier et le deuxième, qui m'a permis d'être le deuxième prix de ce concours.
Alors je crois que ce prix vous a été décerné dans un cadre particulier.
Ce prix est décerné dans les salons du Sénat à Paris. Donc c'est toujours impressionnant quand on dit « je suis allé au Sénat recevoir un prix ». En fait, ce sont les salons du Sénat et la Société des poètes français reçoit ses auteurs et pour les couronner dans les salons du Sénat.
Voilà. Revenons au titre du recueil « Silhouette furtive ». Est-ce que vous pourriez nous donner quelques pistes sur ce titre, quelques explications ?
Mais en fait, les personnages, l'un d'eux, lui, qui correspond au poème « Silhouette furtive », mais les personnages sont tous furtifs, en fait. Ce sont des gens qui ne font que passer. Ce sont des gens qui sont, là aussi, en attente d'on ne sait trop quoi, et qui sont un peu dans la marge de la société. Ils sont sur le bord de la route, et ils sont dans la vie, je dirais, sans mode d'emploi pour la plupart d'entre eux. Donc, ils sont un peu dans l'errance. Ce sont des furtifs, on ne les voit pas. Où on les voit mal. Certains, on ne les voit pas. Ils portent le nom d'invisible dans certaines poésies. Donc, voilà, ce sont tous ces personnages qui, en fait, m'ont toujours intéressé. M'ont toujours intéressé parce qu'on ne les connaît pas. Et chaque fois que j'en croise, je me dis, mais quel a été leur passé pour aujourd'hui être devenus des silhouettes furtives, en effet.
Alors, vous illustrez ces silhouettes furtives sur la couverture. Alors, même si c'est un exercice un peu délicat à la radio, est-ce que je peux vous demander de décrire pour les auditeurs la couverture du livre ?
Alors, la couverture du livre, à laquelle je tiens beaucoup, puisqu'elle a été élaborée par ma petite fille. Donc, j'y tiens particulièrement. C'est une couverture qu'elle a fait d'ailleurs sans l'aide de personne. Et donc, elle montre une fracture, et de part et d'autre de cette fracture, elle montre deux mondes. Le monde, pour simplifier, on pourrait dire le monde des nantis d'un côté et le monde des oubliés de l'autre. Et cette fracture entre les deux, on n'arrive pas à la combler. Elle est toujours là, béante, depuis l'origine des temps peut-être, et jusqu'à la fin des temps peut-être aussi.
La fracture, c'est l'essentiel, le centre de ce recueil. Et c'est un sujet en lui-même qui est très lourd, très, très important. Et vous avez choisi de traiter, entre guillemets, ce sujet par la voie de la poésie. C'était plus facile par la poésie. Est-ce qu'il n'y avait pas un moyen de traiter ce sujet par la voie du roman? Quels ont été vos critères de choix pour vous lancer dans la poésie par rapport à ce thème?
Je dirais que c'est un peu le hasard, d'une part. Je n'avais pas prévu au départ de faire un recueil de poèmes, et c'est vrai que le prix Arthur Rimbaud m'a décidé, et bien des gens autour de moi me disaient « Mais finalement, ton écriture dans tes romans est une écriture poétique. Donc je pratique assez naturellement les assonances, par exemple. » Et donc, ça m'a incité à écrire un poème, puis deux, puis trois, puis finalement de faire un recueil de poèmes autour de ce sujet qui est pour moi un sujet assez prégnant.
Alors, est-ce que ce n'est pas une choisir la difficulté? Parce que pour revenir un petit peu à la poésie en tant que telle, le lectorat potentiel de poésie est très restreint. On peut même dire qu'il y a une certaine désaffection du grand public pour la poésie. Alors, je ne sais pas comment vous l'interprétez et pourquoi finalement vous avez choisi cette voie.
Alors, je n'abandonne pas le roman, j'y travaille toujours, bien sûr. Malgré tout, oui, la poésie, c'est vrai qu'il y a une désaffection de la poésie. Aujourd'hui, dans les librairies, on trouve peu de recueils de poèmes. On en trouve beaucoup sur les salons du livre, paradoxalement. Beaucoup de gens s'essaient à la poésie encore. Il y a pas mal de sociétés de poètes, en fait, alors qu'il n'y a guère de sociétés de romanciers. Il y a des sociétés du livre, mais de romanciers, je n'en connais guère, alors que de poésie, il y a pas mal de sociétés de poètes. Donc la poésie reste assez confidentielle, mais toujours vivante. Et donc, je me suis jeté dans la poésie, encore une fois, un peu par hasard, même si j'ai toujours aimé la poésie, bien sûr, mais j'en étais parti parce qu'effectivement, il y a peu d'amateurs aujourd'hui de poésie. Malgré tout, j'ai constaté que c'était encore vivace dans certains milieux.
Et cette poésie, ce style d'écriture, pensez-vous qu'il soit réservé à certains sujets ou qu'à travers la poésie, on peut tout traiter?
Je pense qu'on peut tout traiter. En tout cas, j'espère qu'on peut tout traiter. Et lorsque je lis de la poésie qui fait référence aux symbolistes du 19e siècle, qui finalement nous ramène au cours de français du collège, je suis un peu navré parce que je pense qu'aujourd'hui, on peut quand même faire de la poésie avec des sujets contemporains, des sujets actuels, sans être obligé d'aller puiser dans les réserves de nos 15 ans. On doit pouvoir quand même faire de la poésie aujourd'hui qui parle à tout le monde et qui parle à tout le monde avec des mots simples et qui soit quand même de la poésie avec une musique poétique aussi pour la soutenir.
La poésie, il y a un côté technique, entre guillemets, et vous faites dans votre ouvrage d'ailleurs la différence, il y a quelques poèmes qui sont que vous nommez comme étant de la prose poétique, oui. Et d'autres de la poésie classique. Est-ce que vous pourriez faire pour nos auditeurs la différence, la petite différence qui existe?
Oui, alors la prose poétique, on pourrait dire que ce sont des vers libres, bien que ce ne soient pas franchement des vers, ce sont plutôt des petits textes, en effet, poétiques. Pourquoi? Parce qu'on se laisse emporter, j'espère en tout cas, c'est ce que j'ai essayé de faire, par une musicalité du texte. de la prose poétique. La prose classique, la poésie classique, elle, est en alexandrin ou en d'autres métriques, mais obéit à la versification. Donc il y a des règles à respecter, ce qui n'est pas toujours facile, puisque parfois on croit avoir trouvé le vers qui va bien, mais non, ça ne colle pas avec la métrique, donc il faut s'y reprendre. Et c'est finalement très long d'écrire des poèmes.
C'est bien plus long qu'un roman.
C'est plus long, oui. Écrire un poème qui en soi est très court, c'est beaucoup plus long que d'écrire une page de prose, même si on a voulu faire en sorte qu'elle soit le mieux possible.
Ce recueil Silhouette furtive, vous le présentez comme purement un recueil de poésie ou plutôt une dénonciation des maux de la société, ou peut-être même, on pourrait dire, une description poétique de la banalité de la réalité.
Je pense plutôt que ça serait, oui, une description de la banalité de la réalité. Je ne souhaite pas dénoncer, je ne souhaite pas juger. D'autres ailleurs le feront sans doute, mais non, c'est simplement montrer des réalités. Et c'est vrai que peut-être il est finalement plus facile de le faire en poésie, parce que peut-être que ça passe mieux auprès d'un lecteur que de le faire en vers plutôt qu'en prose, je ne sais pas.
Donc je m'adresse aux éditeurs maintenant pour leur dire que nous allons passer maintenant à une des mélodies les plus célèbres de la musique classique, et nous la passons, et juste après nous ne pourrons pas leur demander aux auditeurs s'ils l'ont deviné, mais on vous donnera le nom.
Parole d'auteur. Philippe Gilbert.
Nous sommes en compagnie de Gérard Lacoste pour son ouvrage « Silhouette furtive » paru cette année chez Acala. Gérard Lacoste, pouvons-nous vous demander la réponse à la question, à savoir la mélodie que nous venons d'écouter ?
La réponse ? C'est une mélodie que j'aime particulièrement. Je trouve qu'elle s'accorde bien en plus à mon recueil « Silhouette furtive » parce qu'elle évoque... Enfin, on peut évoquer beaucoup de choses avec la musique, mais je trouve qu'elle évoque le passage, en fait. Le passage de ces silhouettes furtives, on pourrait dire, qui errent dans les rues de nos villes. Et donc, sans pathos, la pavane les accompagne, en fait. Tous ces gens qui sont sans révolte, qui sont là, en train de errer, je trouve qu'ils sont bien accompagnés par la pavane. Même si, au départ, Fauré ne l'a pas faite pour ça.
Revenons donc à Silhouette furtive. Vous présentez dans cet ouvrage un certain nombre d'épigraphes, de références principalement à deux auteurs. Oui, il y en a même un troisième puisqu'il y a Victor Hugo. Tout d'abord, vous vous référez à Fernando Pessoa. Et on ouvre le livre en tombant sur cette citation « La littérature est la preuve que la vie ne suffit pas ». Alors, vous nous devez quelques petites explications. Et si en même temps, vous pouvez nous rappeler ou simplement nous informer pour ceux qui ne connaissent pas de qui est Fernando Pessoa ?
Fernando Pessoa, donc c'est un auteur portugais. De Lisbonne, quand on va à Lisbonne, il est présent un peu partout dans la ville, après avoir été ostracisé pendant longtemps d'ailleurs, mais Pessoa est présent partout dans la ville, et c'est un auteur très très discret, qui a très très peu publié, deux fois rien pendant qu'il était de son vivant. C'est un auteur qui est beaucoup plongé dans l'âme humaine en fait, dans l'esprit humain, dans l'âme humaine, dans l'humain en général. Il a fait une littérature introspective absolument étonnante, et il a essayé donc de comprendre lui aussi, comme l'a fait Spinoza, dont on parlera sans doute. Et donc, oui, c'est un auteur, son livre s'appelle le livre de l'intranquillité, et intranquille il l'était, et je pense que je me sens tout à fait en phase avec lui, dans cette intranquillité en fait. C'est-à-dire toujours à essayer de comprendre, de creuser un peu plus pour savoir ce qu'il y a derrière le visible, en fait. C'est ce qu'a fait Spinoza toute sa vie, très simplement, très humblement, je dirais. Et donc, c'est Fernando Pessoa. Pessoa a fait ça toute sa vie et je me sens vraiment en communion avec lui. Un autre a fait ça, c'est Amiel, à Genève, qui a fait exactement la même démarche. On les compare très souvent, mais ils ne se connaissaient pas. Et donc, il y a très peu d'auteurs qui ont fait, en fait, ce genre de démarche aussi profondément que l'a fait Pessoa.
Et la passerelle, précisément, entre cette phrase « La littérature est la preuve que la vie ne suffit pas » et « Les silhouettes furtives » ?
Ah Les silhouettes furtives, ça nous dit quelque chose, en fait, de l'invisible, en fait. Hein. Toutes ces silhouettes que l'on voit en permanence dans nos villes, et qui sont effectivement furtives, parce qu'on ne veut pas qu'elles soient différentes que furtives, en réalité. On ne va pas vers eux. Et, Pessoa était comme ça aussi. Pessoa a été un petit employé toute sa vie, bien qu'érudit, et donc il était furtif aussi dans la littérature. Il n'a jamais pu percer dans la littérature. Il a créé deux revues qui n'ont pas excédé le numéro 2, donc c'est dire que ça n'a pas été bien loin. Et il a écrit quelques poèmes, il a gagné quelques concours de poèmes dans sa ville, mais c'est vraiment pas grand-chose. Il était furtif et on pourrait, oui, dire que c'était aussi une silhouette furtive, même si plus tard, après son décès, il a acquis la notoriété.
Et dans ce recueil, une référence très importante et très appuyée à Spinoza, puisque vous, vous citez à plusieurs reprises au cours du livre un certain nombre de phrases. Alors j'en ai noté trois principalement que je vais lire pour les auditeurs. Ne pas railler, ne pas déplorer, ne pas maudire, mais comprendre. Ça, c'est quelque chose aussi qui vous tient à cœur.
Ah, complètement, oui. Je pense que le maître mot pour Spinoza, c'est comprendre, mais ça, je pourrais le faire bien aussi, même si ce n'est pas toujours facile. Et ne pas railler, ne pas... c'est ce que j'ai essayé de faire dans ce recueil, de ne pas railler, de ne pas juger, mais simplement donner au lecteur de la matière pour essayer de comprendre, en fait. Je pense que c'est vraiment quelque chose de très important que d'essayer de comprendre. Et on voit bien dans notre société aujourd'hui que ce n'est pas toujours ce qui domine. Comment résoudre un problème si on n'a pas compris? Donc c'était quelque chose d'essentiel pour Spinoza. Il a essayé de le transmettre dans son livre maître qui est l'éthique, et je suis toujours admiratif de Spinoza, qui donne des réponses, en tout cas qui essaie de donner des réponses à toutes les questions de l'humanité.
Second précepte, entre guillemets, auquel vous vous référez de la part de Spinoza, je lis toujours « Dans la mesure où une chose convient à notre nature, elle est nécessairement bonne ». Donc une référence à une certaine cohérence par rapport à notre nature profonde.
Oui. Pourquoi si une chose est bonne, elle correspond à notre nature. Alors tout ça pourrait bien se discuter, bien entendu, puisque si elle est bonne pour nous, elle n'est pas forcément bonne pour d'autres. Elle peut mettre des gens en difficulté aussi. On pourrait philosopher à l'infini sur le sujet, mais je crois que sans aller jusque-là, oui, Spinoza, ce qu'il veut nous dire en fait, c'est que on peut se contenter de choses bonnes pour notre nature et que ça doit y suffire en réalité. Inutile d'aller chercher des choses qui pourraient nous poser problème alors qu'on a des choses bonnes pour notre nature finalement très proches de nous.
Et enfin, la troisième phrase de Spinoza, qui fait partie un petit peu de la colonne vertébrale de référence de votre ouvrage, la satisfaction intérieure est en vérité ce que nous ne pouvons espérer de plus grand.
C'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Éprouver de la satisfaction pour un individu, c'est, je crois, à peu près ce qu'on peut espérer de mieux. De plus grand, en effet, oui, éprouver de la satisfaction. Et bien des gens recherchent à côté de la satisfaction, je pense, alors que oui, éprouver de la satisfaction devrait pouvoir combler déjà un individu.
Et la dernière référence à un autre auteur, c'est Victor Hugo. Nous y reviendrons un peu plus tard dans l'émission en détail, puisque vous consacrez un poème complet à la rumeur. Et la phrase de Victor Hugo, c'est « La rumeur approche, l'écho la redit ». Donc, on la redira aussi tout à l'heure à la fin. Alors, je précise pour nos auditeurs que ce recueil est très construit, que le style est un style très réaliste, la manière d'écrire très brève. Les phrases, les textes font l'objet d'une précision sans état d'âme, presque. Et on pourrait peut-être dire que vous êtes un petit peu un poète des choses.
Oui, on doit pouvoir dire ça en effet, oui. Poète du quotidien, en fait. Des choses banales qui se produisent tous les jours sous nos yeux et qui m'interpellent et qui interpellent beaucoup de personne, je pense.
Pour écrire, il faut employer les bons mots, il faut construire des phrases, mais ce qui est le plus important, c'est le choix, effectivement, du mot, le choix du mot juste. Et donc, vous débutez votre ouvrage par un poème dont le titre est le mot juste, et je voudrais vous demander de bien vouloir lire ce poème pour nos auditeurs.
Le mot juste. Le mot juste est délicat, il ne faut pas le gâcher. Le terre est son trépas, il faut toujours bien l'entourer. Évitez les mots gras qui pourraient le gâter. Ce qui fuse à grands pas menace de l'étouffer. L'ignorance s'en agace, en dérision il est tourné. S'il tarde trop, c'est la grimace, on voudrait tant le retrouver. Un autre le remplacera, sans toutefois le détrôner. Le mot juste est délicat, il faut le ménager.
Le mot juste, il faut donc le choisir, le rechercher, et comme vous dites, le protéger. Est-ce que c'est un travail qui est long, difficile, besogneux?
Ça peut être besogneux, oui, de trouver le mot juste, en effet, le mot qui nous donne la satisfaction dont on parlait d'ailleurs à l'instant. Oui, ça peut être difficile. Je n'arrive pas à me résoudre à employer un mot qui ne me convient pas. Je ne dis pas que c'est le meilleur mot, mais pour moi, oui, c'est le mot qui me donne la satisfaction que je recherche en écrivant. Et parfois, c'est difficile. En même temps, il faut que ce mot juste, s'agissant de poésie, est une musicalité qui aille bien avec le vers et avec la strophe. Donc, tout ça complique la chose.
Quand vous parlez de protéger ce mot juste, est-ce que ça signifie qu'il est en danger ?
Je crains que le mot juste soit en danger, en effet, oui. Lorsque j'entends des commentaires, parfois à la radio, à la télévision, je me dis qu'il y a une paresse intellectuelle qui évite le mot juste, avec des mots gras, comme je le dis dans mon poème. C'est tellement plus vite fait, c'est tellement plus facile, et c'est dommage, je crois.
Et est-ce que le fait de ne pas forcément maîtriser le mot juste n'est pas un facteur de dérive dans le sens de ce que l'on veut exprimer?
Oui, justement, c'est parce qu'on n'a pas les mots justes souvent que le défaut de vocabulaire, en fait, entraîne une frustration. Cette frustration entraîne une colère, et cette colère entraîne la violence. Donc tout démarre avec des mots. Nous sommes des êtres pétris de vocabulaire, de mots. Ce sont les mots qui nous permettent de communiquer et de faire l'humanité, en fait. Et je pense que faire l'impasse sur le vocabulaire, sur les mots, je pense à l'éducation nationale notamment, et à l'éducation en général, c'est quelque chose qui pénalisera nos sociétés à venir, oui, absolument.
Est-ce que vous auriez un conseil ou une mesure qui pourrait être efficace pour la protection des mots ?
Je crois qu'il faut lire, il faut lire. Alors, si possible, lire les bons auteurs, mais lire tout simplement, oui, c'est quelque chose. On ne remplace pas la lecture, je crois. La télévision ne remplace pas la lecture, la radio ne remplace pas la lecture, Internet ne remplace pas la lecture. Il faut effectivement lire des livres de fiction, notamment. C'est là-dedans que l'on trouve la matière et les mots qui permettent de s'exprimer. Et quand on ne connaît pas un mot, il est tellement facile aujourd'hui d'en vérifier la signification sur ce que nous avons tous dans nos poches, un smartphone. Donc, c'est infiniment plus facile qu'autrefois. On a moins d'excuses qu'autrefois de ne pas maîtriser les mots, et pourtant, on les maîtrise moins quand même.
Seconde pause musicale. Thank you.
Parole d'auteur. Philippe Gilbert.
Comme vous l'avez constaté, la seconde pause musicale est arrivée très vite. Et j'avais l'intention de vous poser une petite question, chers auditeurs. Je vais vous lire une petite phrase et la question était de savoir de qui elle était. J'ai mis dans ma musique mon vieux goût des fêtes foraines, des représentations nomades et toute ma compassion des artistes errants qui portent le rêve et la fantaisie sous des oripeaux ternis et fanés, mais dans lesquels survivent l'or et le pourpre. Et c'est donc Gérard Lacoste qui va vous donner le nom de cet artiste, qui est Henri Sauguet.
Henri Sauguet.
Henri Sauguet.
Bon, Henri
voilà.
Sauguet.
Mais... Voilà. Donc, c'était un extrait des Forains.
Des Forains de Sauguet.
Des Forains de Sauguet de 1945, qui est donc un auteur-compositeur dont le vrai nom était Henri Poupart. Et c'est donc en 1945... que ce ballet a une reconnaissance internationale et qu'il fait le tour du monde.
Henri Sauguet m'évoque, chaque fois que j'entends cette musique, les forains très tôt dans la matinée qui déploient leurs étals et qui, dans le noir encore, ou dans la brume ou sous la pluie, essaient de déployer des étals pour gagner leur vie tous les jours et tous les jours se remettre en question. Pour à nouveau redéployer des étals et puis gagner leur vie. Et donc j'y pense chaque fois que j'entends Henri Sauguet et chaque fois que je vois des forains, je pense à sa musique.
Revenons à votre recueil. Nous avons vu tout à l'heure que pour écrire un bon recueil de poèmes, il faut choisir le mot juste. Mais plus prosaïquement, vous semblez nous indiquer qu'il faut un bon stylo, un stylo qui est de l'expérience en quelque sorte, hein, qui était utilisé, puisque vous avez introduit dans ce recueil un poème qui s'appelle Le vieux stylo.
Le vieux stylo, oui, en effet.
Est-ce que vous pourriez nous le lire, s'il vous plaît ?
Alors, Le vieux stylo, c'est un poème en prose. Comme il l'a fait souvent, il saisit en tremblant un vieux Mont Blanc que ses doigts douloureux hissent lentement au sommet d'une page de papier blanc. Les mots peinent à s'exprimer du stylo usé. Il doit creuser sa mémoire avant de labourer le papier, d'enfouir dans les sillons ces lettres qu'au debout de la vie on peine à dessiner. Laborieusement, il s'applique à tracer les pleins et les déliés d'un poème à inventer. Il voudrait encore aujourd'hui trouver l'énergie et retenir la vie qui s'enfuit, les mots pour le dire enfin, mieux que tous les autres avant lui, un vers, un seul, qui les vaudrait tous et lui survivrait. Des plumes d'antan ont déposé dans sa mémoire des phrases abîmées qui ressurgissent maintenant. Elles viennent heurter les siennes, trop fragiles pour résister. Longtemps je me suis couché de bonne heure, au soir de sa vie, le soleil le surprend souvent, les bras croisés, la tête penchée sur son cahier d'écolier. Alité, il n'a plus comme Proust la force de penser. C'était à Malaga, quelque part en Espagne, dans un jardin public, il flânait avec sa compagne. Flaubert s'invite dans ses souvenirs pour mieux les travestir. Dans sa bibliothèque, quelques recueils dont il est l'auteur se tiennent tout droit, à l'étroit, serrés de chaque côté par des ouvrages plus épais. Sur la page blanche, le vieux Mont-Blanc s'est couché. Un gribouillis l'a épuisé. Le temps est venu de renoncer à escalader les phrases, à mettre les mots les uns par-dessus les autres pour monter plus haut. Il faut ranger le vieux stylo.
Il faut ranger le vieux stylo. On doit en tirer quelle conclusion, précisément, par rapport à l'écriture ?
Oh, je pense qu'il arrive un moment, très loin dans sa vie, le plus loin possible. Le vieux poète que j'évoque dans ce poème comprend qu'il ne pourra plus écrire. Le temps a passé, il n'a plus la force physique, la force mentale d'écrire encore. Il mélange les poèmes, il évoque Proust, il évoque Flaubert. Il n'arrive plus à retrouver la phrase de Flaubert. Enfin bon, il faut s'arrêter. Je crois que la sagesse le contraint à à poser le stylo, en effet.
Une petite question décalée. Vous écrivez sur l'ordinateur ou à la main, de manière manuscrite ?
J'écris exclusivement sur un ordinateur. Je trouve absolument magique d'écrire sur un ordinateur.
Il y a des gens qui ont, des écrivains qui ont prolongé leur temps d'écriture justement parce qu'ils n'arrivaient plus à tenir le stylo. François Giroud, je crois, était dans ce cas.
Je ne sais pas, mais je pense qu'effectivement, l'ordinateur, pour moi, a quelque chose de magique, puisqu'on construit un poème ou de la prose, qu'importe, et instantanément à l'écran, on a le résultat. C'est-à-dire que son livre se déroule au fur et à mesure qu'on l'écrit sur l'écran, et je trouve que c'est absolument incroyable de pouvoir, avec la technique, arriver à ce résultat.
Alors, dans ce recueil, il y a des... Chaque poème a un titre, naturellement, donc nous n'allons pas avoir le temps de tous les évoquer, mais je voudrais lire une petite série de titres pour que les auditeurs aient un aperçu. Il y a « L'écume du malheur »,« Ils ont perdu l'espoir »,« Au milieu de la rue »,« Le violoniste »,« Invisible »,« Tout était flou », »,« La boîte laquée », »,« Le cabanon », »,« La lucarne », La plaque en bronze, Le randonneur, La retraite, La vague spinozienne et La rumeur. Alors je voudrais qu'un instant nous puissions nous arrêter sur La retraite. Et si vous pouvez nous lire un petit passage de La retraite, s'il vous plaît.
La retraite. Il ne fait presque rien, sa vie est trop usée. Il musarde toujours le long de ses allées, guettant l'événement qui pourrait égayer, surgissant du néant, ce vide gaspillé. Il n'économisa ni son corps ni sa peine, il éprouva son corps qu'il ne se rebelle. Il dut travailler dur pour acquérir des droits, au bout de tant d'efforts, maintenant sans emploi. Il en parlait souvent comme d'une espérance, évoquée en passant pour donner confiance. Elle lui permettra d'enfin se reposer et sans engagement, d'aller aussi flâner. Cet espace infini, cette morne retraite, est un désert rempli d'ennui et non de fête, un point d'orgue éternel qu'il voudrait voir cesser. Au bout de ses allées, il songe à s'en aller. J'ai un peu cafouillé sur une phrase.
Ah, nous avons suivi. C'était important d'écrire sur la retraite ?
Ça m'est venu, je dirais, là aussi naturellement, mais oui, je pense que c'est important parce que beaucoup de gens s'imaginent à la retraite avoir une embellie, une vie, une nouvelle vie. On n'a jamais, je crois, une nouvelle vie. On a une vie qui continue différemment, c'est tout. Et dans le cas de cet homme qui a travaillé dur toute sa vie, qui maintenant pourrait, comme on le dit souvent, se reposer tout simplement... Ben, il constate que ce n'est pas une fin en soi de se reposer et qu'en fait il s'ennuie beaucoup et que voilà, quoi, c'est la retraite, ce n'est pas toujours un moment forcément absolument heureux.
Avant de terminer cette émission, je voudrais que nous évoquions simplement le poème qui s'appelle « La vague spinozienne ». Et je crois que nous allons maintenir le suspense sans lire le texte, mais simplement dites-nous pourquoi vous avez écrit ce poème ?
Je l'ai écrit bien sûr en pensant à Spinoza, mais je l'ai écrit aussi en pensant à Gilles Deleuze, qui est un des grands philosophes qui a beaucoup, beaucoup étudié et parlé de Spinoza. Et Spinoza dit « les choses se composent ou ne se composent pas ». Donc parfois elles se composent très bien, d'autres fois elles se composent moins bien ou pas du tout. Et c'est Gilles Deleuze qui parle d'une vague qui se compose avec le baigneur ou qui ne se compose pas. Et donc c'est vrai que parfois, certains sont très à l'aise dans l'océan à rouler dans les vagues et se régalent de pratiquer cette activité. Et d'autres se font au contraire rouler par les vagues jusqu'à sur la grève et en pâtissent. Donc pour certains, c'est une passion, dirait Spinoza. Et pour d'autres, c'est une passion triste, parce que, dirait Spinoza aussi, parce qu'il ne se compose pas avec la vague. Pour Spinoza, tout était comme cela, les choses se composaient ou ne se composaient pas. Et donc ça m'a inspiré ce poème en référence à Spinoza, mais en référence à Deleuze aussi, que j'ai beaucoup, beaucoup écouté et qui m'a apporté beaucoup.
Je vais lire la fin de ce poème. Donc, en parlant de la vague spinozienne, vous terminez. Sa personnalité et même tout son être ne se comptent pas avec les éléments des caprices du vent agitant l'océan. Tout est dit.
Tout est dit, absolument.
Avant de nous quitter, Gérard Lacoste, vous devez absolument nous parler du dernier poème en référence à Victor Hugo. On a cité ça, le vers de Victor Hugo, « La rumeur approche, l'écho la redit ». Alors, ce poème « La rumeur », je me propose aussi de lire quelques lignes de ce poème. On ne peut l'arrêter car elle doit voler. On voudrait la briser, elle est insaisissable. Elle s'estompera sans jamais disparaître. Mieux vaut la mépriser, héros mal inspiré de tristes passions. C'était important aussi d'écrire sur la rumeur. C'est un sujet de grande inspiration.
C'est un sujet universel. Puis la rumeur, plus que jamais dans l'actualité, on est assailli par les rumeurs de toutes sortes. On est aussi assailli de rumeurs, on peut l'être dans sa vie privée, dans sa vie professionnelle, dans sa vie privée. La rumeur est partout, et déjà Victor Hugo l'évoquait. Il y a un poème de Victor Hugo qui s'appelle « Le Mont », qui parle de la rumeur très merveilleusement bien d'ailleurs. Et donc oui, la rumeur est quelque chose, hélas, qui nous cerne partout. Donc,
et donc le conseil, c'est « mieux vaut la mépriser ».«
Mieux vaut la mépriser ».
Très bien. Gérard Lacoste, merci beaucoup d'être venu à Parole d'auteur. Je pense que vous aurez créé une envie de poésie auprès de nos auditeurs. Je rappelle aussi que votre ouvrage précédent est un roman qui s'appelle « Là-bas ». Et peut-être je peux oser une question, savoir quel genre d'ouvrage sera le suivant.
Le suivant sera un ouvrage qui ressemble un peu au précédent pour le sujet traité. Ce sont toujours des personnages qui sont un peu à côté de leur vie, en fait, ou un peu à côté de la vie, et qui n'arrivent pas à prendre le chemin qu'on n'aura pas tracé et qui est difficile pour eux de retrouver, ou de trouver tout simplement. Donc ça sera encore un roman qui n'est pas destiné à être lu sur la plage par un après-midi d'août, mais plutôt un roman empreint de nostalgie, de tristesse, de mélancolie, je dirais plutôt.
D'accord. Donc nous attendons ce prochain ouvrage avec impatience. Et je répète le titre de votre ouvrage poétique, Silhouette furtive. Et je rappelle à nos auditeurs qu'un livre de poésie, un recueil de poésie, ce n'est pas uniquement pour être lu, mais c'est surtout pour être relu. Merci Gérard Lacoste, merci aux auditeurs, merci à Christophe Aubry à la technique. Je vous rappelle que vous pouvez réagir à cette émission et qu'elle est disponible sur toutes les plateformes numériques en podcast. Au revoir à tous et bonne lecture.